Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio B.
Ça c'est rien de le dire.
Ouvrez bien vos oreilles.
Tu vas pas mourir.
Je vous emmène au collège Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs.
C'est pas rien de le dire.
On retrouve tout de suite des élèves de la 4e 2.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une émission spéciale sur la protection des animaux. Je m'appelle Héloïse et je suis accompagnée de Roxana.
Bonjour, on a choisi ce thème car il est international et actuel. En plus, c'est un sujet intéressant qui nous concerne tous.
Au programme, un micro-trottoir avec des personnes de notre collège et vous en saurez plus sur le trafic animalier et ses conséquences. Vous entendrez aussi en exclusivité Florence Aubry, auteure de Titan Noir. Son livre raconte la vie d'une orque dans un parc océanographique.
Savez-vous la différence entre un zoo et une ménagerie ? Explication dans quelques minutes. Des milliers d'espèces sont en danger. Zoom sur certaines dans notre vrai ou faux. Et nous refermerons cette émission avec deux invités surprises.
Radio B. Radio B.
Commençons par le micro-trottoir d'Alan et Andis. Ils ont demandé l'avis des différentes personnes du collège au sujet des animaux en voie de disparition.
Quels sont les animaux en voie de disparition ?
L'ours blanc, par exemple, est menacé. Certains félins, comme le tigre.
Le lynx, il me semble. Il y a des singes, notamment en Amazonie, avec la déforestation. Je ne sais plus si c'est les chimpanzés ou quelque chose comme ça.
Selon vous, quels sont les animaux en voie de disparition ?
Par exemple, les insectes, actuellement, sont en grand danger, vu les pesticides.
Le traditionnel, c'est l'ours polaire. Hein. Puis ensuite, je crois que c'est surtout au niveau des petits animaux, les insectes, notamment.
Les dauphins, les panthères, les lions.
Les lynx, les girafes, les éléphants, un peu tous ceux qui vivent dans la savane.
Le premier animal auquel je pense, c'est l'ours polaire. Il y a aussi les éléphants. Je pense aussi aux crocodiles. Je pense aussi aux requins.
D'après vous, pourquoi certains animaux sont en voie de disparition ?
Je pense qu'une des principales raisons, c'est le fait que leur habitat disparaît. Puisque les villes s'étendent, les constructions humaines s'étendent, et les animaux étant privés de leur habitat, ne trouvent plus notamment de nourriture, et du coup disparaissent.
Ou sinon parce qu'ils sont chassés, soit pour peut-être leur fourrure, ou par exemple les éléphants pour leur défense.
D'après vous, pourquoi certains animaux sont en voie de disparition ?
Et bien à cause des activités humaines, certaines pratiques agricoles aussi. Par rapport aux insecticides ou l'arrachage des haies.
Par exemple, les orang-outans en Indonésie, où c'est remplacé par les cultures de palmiers pour faire de l'huile. Et donc, ils se retrouvent dépourvus de leur habitat naturel et du coup, ils ne peuvent plus vivre. Et après, il y a toute la pollution. Je pense également dans les étangs et les rivières, où la pollution va détruire leur habitat et rendre impropre l'eau pour leur survie.
Après, je pense que le réchauffement climatique aussi, mais qui est aussi le fruit de l'action de l'homme, peut expliquer la disparition de certaines espèces.
Comment faire pour protéger les animaux ?
Réfléchir à notre comportement, peut-être imaginer de construire davantage en hauteur et moins étendre les constructions humaines, et puis moins polluer également, parce qu'on sait que la pollution est fatale à certains d'entre eux. Utiliser moins de pesticides.
Mettre en place des lois pour les protéger, pour interdire la destruction de leur habitat, pour interdire la chasse de ces animaux.
En faisant plus attention à eux, en essayant moins de les tuer.
Laisser des espaces naturels un peu plus sauvages.
Comment faire pour protéger les animaux ?
Porter beaucoup plus d'attention sur notre environnement en général, ce qui nous entoure. Veiller à modifier nos habitudes, on le sait, on produit beaucoup trop de déchets. Et puis les énergies fossiles, bien évidemment, les émissions de gaz à effet de serre.
Merci pour ce micro-trottoir. Lucia, Yusra et Célia sont avec nous. Bonjour.
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 Bonjour. Avec Roxana, vous allez nous parler du trafic des animaux et ses conséquences.
Mais au fait, Lucia, Yusra et Celia, c'est quoi le trafic des espèces menacées ?
C'est le trafic illégal des animaux sauvages. Ils sont capturés puis vendus ou tués pour une partie de leur corps.
Par exemple, 20 à 30 000 éléphants sont abattus chaque année, juste pour l'ivoire de leur défense, selon WWF, la première organisation mondiale de protection de la nature.
Mais pourquoi ils font ça ?
Parce que ça rapporte énormément d'argent aux trafiquants.
Mais il y en a partout dans le monde.
Oui, le trafic des espèces menacées est parmi les 5 les plus rentables au monde, avec celui des armes, des êtres humains, de la contrefaçon et de la drogue, selon la fondation 30 millions d'amis.
Alors, ce trafic existe aussi en France ?
Malheureusement, oui. Il y a une famille d'oiseaux, les passereaux. Selon un article publié en juin 2020 sur le site de Quotidien, La Dépêche, des dizaines de milliers de passereaux sont braconnés chaque année. Il y a par exemple les chardonnerets.
Mais des choses sont faites pour arrêter ce trafic ?
Oui, heureusement, la CITES a été signée en 1973. C'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Grâce à elle, plus de 34 000 espèces sont protégées. La vente de certains animaux est encadrée. Et ça peut aller jusqu'à l'interdiction de vendre dans le monde. Je reprends l'exemple des éléphants. La vente de leur ivoire est interdite depuis 1989.
Et en 2015, il y a eu par exemple le sommet pour le développement durable de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Pendant cet événement, ont été adoptés de nouveaux objectifs de développement durable. Pour de grands changements en 2030. Plusieurs objectifs partent de la lutte contre le commerce illicite des espèces sauvages.
Ils peuvent faire quoi, par exemple ?
Donner aux populations locales les moyens de vivre sans avoir besoin de vendre des espèces sauvages.
J'ai aussi lu que le 3 mars est la journée mondiale de la vie sauvage. C'est vrai ?
Oui, c'est ça. Une journée a été créée par l'ONU pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la biodiversité, c'est-à-dire les nombreuses espèces d'animaux, de plantes, de fleurs, etc.
C'est une bonne initiative ! Mais je suppose que tous les animaux ne sont pas menacés.
Malheureusement, plus un animal est en voie d'extinction, plus il est rare et donc plus il est traqué.
C'est logique d'une certaine manière.
Oui, ce trafic menace la survie de nombreux animaux. Les contrebandiers vont même jusqu'à voler les animaux dans les parcs animaliers.
Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ?
On peut s'informer grâce à des associations.
Il y a par exemple la fondation 30 millions d'amis, la Ligue pour la protection des oiseaux ou encore la SPA. La société protectrice des animaux.
Merci pour ces informations.
Je suis en faveur des droits des animaux autant que des droits de l'homme. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis.
Tu sais, Roxana, j'ai lu un livre au CDI du collège, Titan Noir, de Florence Aubry.
Oui, et je vais vous parler tout de suite de l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Elfie qui va faire son job d'été dans un parc océanographique. Elle commence d'abord par travailler à la caisse, puis à l'enclos des manchots. Et ensuite, elle va finir par travailler comme dresseuse avec un orque, Oscuro. Au fur et à mesure, elle va apprendre son histoire, sa capture et ce qu'il a pu faire. Héloïse, avec Célia et Lucia, vous avez eu la chance d'interviewer Florence Aubry, l'auteur de ce livre.
On l'écoute tout de suite.
Bonjour Florence Aubry, comment avez-vous eu l'idée d'écrire Titan Noir ?
Titan Noir, c'est à la suite d'un choc. J'ai vu la vidéo Blackfish sur Arte. Et voilà, j'étais touchée par la violence des images et puis la violence de l'histoire de cet orque et puis de ce qui est arrivé aux soigneurs. Et le thème de l'animal, c'est un thème qui me touche. Je pense qu'il y a des animaux dans chacun de mes romans. Et voilà comment j'ai eu envie d'écrire sur ce sujet-là.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre des pages noires et des pages blanches dans votre livre ?
Alors, quand on termine un livre, le travail n'est pas terminé. Il y a tout un travail de collaboration avec l'éditeur. Ce travail, c'est d'abord des corrections. Ça peut être des passages du roman revisités, soit parce qu'ils ne sont pas clairs, soit parce qu'ils sont trop lents. Et puis, l'éditeur peut faire aussi des propositions. Et donc, ça, c'est une idée de Sylvie Gracia, mon éditrice, aux éditions du Rouergue, les pages noires et les pages blanches.
Florence Aubry, quel est le passage dans Titan Noir que vous avez préféré écrire ? Pourquoi ?
Alors, j'ai une petite préférence pour la fin un peu heureuse et le départ de Babou. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages assez durs dans ce texte, donc je suis contente de l'avoir terminé par une note positive, disons.
Est-ce que, quand vous étiez enfant ou adulte, vous êtes allé dans un parc océanographique ?
Ça m'est arrivé une fois, parce que on avait organisé, enfin, les professeurs de PS de mon collège avaient organisé une sortie scolaire pour aller voir un tournoi de tennis. Et puis, en marge du tournoi, on était allé visiter un parc il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. C'est, à l'époque, ça m'avait pas du tout plu. Mais j'en garde un souvenir précis et puis je m'en suis beaucoup servi, notamment pour décrire le comportement des spectateurs dont je faisais partie d'ailleurs.
Pourquoi est-ce que vous en avez gardé un mauvais souvenir ?
Je ne voyais pas la magie du spectacle, je ne voyais que la souffrance de l'animal et voilà, du coup ça me plaisait pas. Pour moi, ce que je voyais, ça s'apparentait à ce qu'on pouvait voir dans un zoo, ce qu'on pouvait voir dans un cirque. Du coup, ça, j'étais pas du tout sensible à la beauté du spectacle, disons.
Merci Florence Aubry d'avoir répondu à nos questions pour notre émission.
Merci à vous pour l'intérêt que vous avez porté à Titan et puis je vous souhaite une belle fin d'année scolaire aussi.
Merci encore à Florence Aubry et avis aux élèves et à nos professeurs, son livre est au CDI du collège.
Quels sont les animaux en danger ? Amira et Colline, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous présenter quelques animaux menacés.
On vous propose sous titre un vrai faux sur la protection des animaux. Vous êtes prêts ?
Oui !
À toi, Colline.
Vrai ou faux, le changement climatique met en danger les ours blancs.
Vrai, la terre se réchauffe, alors la glace fond plutôt en été. Résultat, les ours blancs ont moins de temps pour chasser le phoque. Donc, ils mangent moins, ont moins de graisse et sont plus fragiles. Les hommes polluent aussi la mer. Des matières toxiques sont jetées dans l'eau, puis mangées par le plancton. Plancton qui est mangé par les poissons et poissons qui sont mangés par les ours blancs.
Le panda géant n'est pas protégé.
Faux. En Chine, depuis 1987, les braconniers qui les chassent sont punis de mort. Mais cela ne suffit pas. Le panda géant est toujours chassé pour sa peau et vendu illégalement en cachette dans des boutiques en Thaïlande ou à Hong Kong. L'endroit où vit le panda géant a aussi énormément rétréci depuis une trentaine d'années. Moins d'espace pour les pandas, mais plus pour les plantations de riz.
Vrai ou faux, la quantité de plastique qui finit dans la mer va augmenter.
Vrai, chaque année, selon une étude de la revue Science, 11 millions de tonnes de plastique finissent dans la mer. Et de nombreuses espèces d'animaux sont en danger. Dans l'eau, le sac plastique ressemble aux méduses. Les tortues et les dauphins les avalent, s'étouffent et meurent.
Amira, c'est à ton tour.
Vrai ou faux, les tigres sont toujours en danger.
Vrai. Avant, les personnes riches et puissantes chassaient les tigres juste pour le plaisir de tuer. Aujourd'hui, malheureusement, on les chasse toujours, mais pour de l'argent. Des manteaux et des tapis sont fabriqués avec leur peau. Certains les mangent ou fabriquent des médicaments avec leurs organes. La vie des tigres est directement menacée et il y a aussi là où ils vivent. Les arbres de leur forêt sont coupés pour l'agriculture.
Colline, une dernière question. Vrai ou faux, les alligators de Chine sont plus nombreux aujourd'hui ?
Faux. En 2007, il y avait moins de 200 dans la nature alors qu'il y en avait environ 500 en 1980. Heureusement, ils sont des milliers en captivité. Les alligators de Chine ont le même destin que les tigres. Chassés pour le plaisir et aujourd'hui pour finir en sac à main ou en chaussures, les alligators du Mississippi aux États-Unis ont failli disparaître totalement. Heureusement, leur chasse a été interdite en 1967.
Nous avons réalisé ce vrai-faux en regardant les livres « Espèces en danger » d'Emmanuel Grondman aux éditions Fleurus et « SOS animaux en danger » de Charline Zeytoun aux éditions Mango Jeunesse.
Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'en tueront. Celui qui sème la mort et la douleur ne veut pas en effet récolter la joie et l'amour. Pythagore, mathématicien.
Merci les filles pour toutes ces informations. On retrouve Alan et Andis pour un micro-trottoir sur les parcs animaliers.
Que pensez-vous des parcs animaliers ?
Ça permet apparemment de préserver des espèces et puis de faire des reproductions avec des espèces en voie de disparition, de faire des réintroductions en milieu naturel.
Il y a deux types de parcs animaliers, hein, ceux qui les mettent en cage, dans des toutes petites cages et qui ne font pas grand-chose, et il y a certains parcs animaliers qui sont quand même beaucoup mieux et qui peuvent servir à la préservation de certaines espèces.
Les parcs animaliers, alors moi personnellement j'aime bien y aller parce que j'ai des enfants petits, donc ça permet aux petits-enfants de voir les animaux. Après, je pense que si on connaissait tout de la façon dont les animaux sont gardés, sont parqués dans des petits espaces, je pense que je serais peut-être moins d'accord. Je peux m'imaginer en fait les conditions de garde des animaux et je pense qu'ils seraient mieux dans la nature, ces animaux-là.
Que pensez-vous des parcs animaliers ?
Ça peut être un moyen peut-être de protéger certaines espèces, mais après il faut les alimenter et du coup il faut y mettre de nouveaux animaux parce que le but c'est quand même de faire venir du public et que sans nouveauté le public ne vient pas souvent.
Je pense que c'est bien pour aller voir les animaux qu'on n'a jamais vus.
Ils protègent les animaux, on peut les voir sans leur faire de mal.
Je vais apprécier y aller pour voir des animaux que je ne pourrais pas voir à l'état sauvage, comme par exemple un lion. Mais est-ce que ces animaux, comment eux ils ressentent en fait le fait d'être enfermés, le fait de ne pas pouvoir se déplacer où ils veulent, voilà. Et en même temps, je suis consciente que c'est une des solutions pour les protéger.
Merci aux personnes qui ont répondu à nos questions.
Au fait, quand sont apparus les premiers parcs animaliers ? Et étaient-ils comme ceux d'aujourd'hui ? Louane et Roxana, c'est à vous.
D'ailleurs, Louane, quelle est l'origine des parcs animaliers ?
Le premier parc animalier était en fait appelé une ménagerie.
C'est pas là où on fait le ménage ?
Non, une ménagerie, c'est l'ancêtre du zoo. Ce terme a été employé pour la première fois au XVIIe siècle. Il y avait par exemple la ménagerie royale de Versailles. Elle a été créée par le jeune Louis XIV. On y trouvait des animaux exotiques, il y avait même une ferme.
Une ferme ?
Oui, pour les repas des habitants du château et pour nourrir d'autres animaux.
En fait, c'est la même chose qu'un zoo.
Non, non, il y avait une différence. Les jardins zoologiques ont été fondés avec un but scientifique et d'éducation. Les ménageries, elles, savaient exposer la richesse et la puissance des aristocrates.
Pour résumer, un parc zoologique, c'est juste pour la science et l'éducation.
Mais pas que. Il y a aussi le divertissement et la conservation des espèces. Mais les zoos ont aussi évolué. La préservation des espèces est aujourd'hui en tête des priorités. Des animaux naissent sur place et certains sont réintroduits dans leur espace naturel. Et tu sais ce que sont les réserves naturelles ?
C'est pas comme un zoo ?
Non, les parcs ou réserves naturelles sont des espaces uniquement aménagés par l'homme pour conserver différentes espèces dans leur milieu naturel.
Pour résumer, c'est un endroit arrangé par l'homme où les animaux vivent libres.
Exactement.
Et aujourd'hui, il y a combien de zoos ?
En France ou dans le monde ?
Les deux.
Selon l'enquête du journal La Croix, publiée début avril 2019, le zoo entre en captivité, semi-liberté et espace naturel. Dans le monde, il y en a plus de 2000. Et en France, il y a environ 300 parcs zoologiques.
Et pour refermer notre émission, Louane, Khadija et Solène, on vous retrouve pour une interview par téléphone avec Emmanuel Visentin, le directeur du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes et un vétérinaire du parc.
Bonjour, moi je m'appelle Louane. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, je suis Emmanuel Visentin, je suis directeur du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, donc ça depuis 15 ans, depuis le mois de juillet 2005.
Bonjour, je m'appelle Khadija. Pourquoi le parc des oiseaux a été créé ?
Je ne sais pas si vous savez, mais en 2020, on a fêté les 50 ans du parc des oiseaux. Il a ouvert ses portes le 12 juillet 1970. En sachant que la décision d'ouvrir le parc des oiseaux, elle datait de 1963. Et c'est le maire de Villars-les-Dombes, qui était également président du département de l'Ain, qui s'appelait Monsieur Jean Saint-Cyr. Donc cette décision, il l'a prise en 1963, parce qu'il y a deux personnes qui ont écrit un livre à l'époque, qui étaient passionnées de nature et d'oiseaux, qui lui ont expliqué que déjà à cette époque-là, la Dombe voyait ses populations d'oiseaux se dégrader, et qu'il était peut-être important d'essayer de préserver toute cette biodiversité, toute la qualité de cet écosystème. Et donc, Monsieur Saint-Cyr a pris la décision à l'époque de créer ce qu'on appelle encore aujourd'hui la réserve naturelle départementale, c'est-à-dire que c'est un espace de 380 hectares dans lequel on n'a pas le droit de chasser, dans lequel on exerce une activité qui est très respectueuse de la nature. Et puis, parallèlement à la création de cette réserve naturelle, il a décidé de créer un espace, donc le parc des oiseaux, de 35 hectares, qui avait une vocation touristique et pédagogique, c'est-à-dire qu'il voulait montrer tous les oiseaux du monde à des touristes qui venaient en Dombes ou à des enfants qui venaient lors de leur visite scolaire de fin d'année.
Emmanuel Visentin, quelle espèce d'oiseau avez-vous ?
On en a énormément des espèces d'oiseaux. Alors la particularité du parc, et je pense que c'est le seul endroit du monde où on peut voir ça, c'est que on peut voir quand on vient au parc des oiseaux, à la fois ce qu'on appelle des oiseaux sauvages, hein, qu'on peut observer dans leur milieu naturel, ceux qui sont venus récemment au parc, par exemple les cigognes, on les laisse venir dans l'enceinte du parc librement. Et puis des oiseaux, ce qu'on appelle des oiseaux en captivité, donc c'est des oiseaux qui appartiennent au parc des oiseaux, qui sont soit nés au parc, soit qu'on a fait venir d'autres zoos européens. Et c'est ce qu'on appelle la collection du parc des oiseaux. Donc cette collection, elle est formée d'à peu près 2500 oiseaux. C'est à peu près 250 espèces d'oiseaux différentes qui sont originaires de tous les continents. Parmi ces oiseaux, il y en a une soixantaine qui sont menacés de disparaître dans la nature compte tenu de la dégradation de notre environnement.
Bonjour, je m'appelle Solène. Est-ce que vous récupérez les oiseaux abandonnés ?
Et non, on n'a pas le droit. Ça peut paraître surprenant, mais cette interdiction, elle est surtout faite pour en fait protéger les oiseaux. Elle s'applique dans le monde entier. C'est pour éviter ce qu'on appelle le trafic d'oiseaux, c'est-à-dire que les gens aillent dans la nature prélever des oiseaux et qu'à force de les prélever, ils viennent à disparaître.
Emmanuel Visentin, c'est quoi le programme Barnabé ?
C'est un site innovant qu'on veut créer juste à côté du parc des oiseaux pour essayer de créer un centre de reproduction d'espèces qui sont menacées dans la nature, d'espèces européennes. Et quand il y aura suffisamment de reproduction, c'est-à-dire quand le groupe d'oiseaux en captivité aura suffisamment grandi, on pourra alors envisager de relâcher des oiseaux dans la nature pour faire en sorte que les populations d'oiseaux dites sauvages redeviennent normales et que les oiseaux, l'existence même de ces oiseaux ne soit plus remise en cause. Ce qu'on veut au travers du programme Barnabé, nous, c'est créer des volières dans lesquelles on va installer ce qu'on appelle des couples reproducteurs, hein, c'est-à-dire des oiseaux mâles et femelles qui vont faire des petits oisillons. Et quand on aura un nombre suffisamment d'oiseaux, on va les relâcher dans la nature. Donc on a identifié pour l'instant 3 espèces d'oiseaux qui vont rentrer dans ce programme-là. Le vautour moine, c'est un grand vautour européen, le gypaète barbu, et puis le canepetière. Voilà, c'est quelque chose qu'on aurait souhaité concrétiser cette année, mais malheureusement on n'a pas pu à cause des problèmes de confinement et puis des problèmes financiers qu'on a subis à cause du Covid.
Merci Emmanuel Visentin d'avoir répondu à nos questions.
Radio B, Radio B.
Bonjour, je m'appelle Khadija et je vais vous interviewer. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour. Donc je m'appelle Eric Bureau et je suis vétérinaire au Parc des Oiseaux depuis maintenant plus de 25 ans.
Bonjour, je m'appelle Solène. Depuis combien de temps êtes-vous vétérinaire ?
Alors, je suis vétérinaire depuis 31 ans. J'ai fait un petit peu vétérinaire pour les vaches, les chiens, les chats. Et après, je suis venu travailler au parc des oiseaux. Et donc, maintenant, je m'occupe plus que d'oiseaux.
Bonjour, je m'appelle Louane. Quelle est votre mission au sein du parc ?
Alors, je m'occupe pas mal de choses. En premier lieu, de la santé des oiseaux. Alors, ça passe par les soins quand ils sont malades, mais aussi beaucoup par la prévention, l'alimentation, l'aménagement des volières. Et puis après, tout le suivi des oiseaux, former des groupes, voir les parents, les échanges avec les autres parcs et la gestion des espèces un petit peu plus rares.
Combien d'oiseaux soignez-vous environ en une journée ?
Alors ça dépend, pas énormément, juste pour un ou deux oiseaux à voir. Voilà, après c'est beaucoup de la surveillance, améliorer l'alimentation, regarder les lieux de vie des oiseaux.
Des oiseaux migrent l'hiver dans les pays chauds. Dans votre parc, ils sont dans des volières. Alors comment font-ils ?
Alors quand on construit des volières, voilà, justement pour ceux qui craignent le froid, on a toujours des bâtiments à côté des volières où ils peuvent aller, quand il fait froid, se réfugier au chaud. En général, ils le font très bien tout seuls. Donc, s'il fait un petit peu, comme aujourd'hui, s'il y a un petit peu de soleil, ils peuvent retourner dans les volières. Et puis, s'il fait vraiment très froid, ils restent à l'intérieur.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Emmanuel Visentin, directeur du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, et votre collègue vétérinaire du parc.
La cruauté envers les animaux est la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même. Emmanuel Kant, philosophe.
Et un grand merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute. Merci aussi à nos professeurs et à Audrey qui se sont occupés de cette émission radio, et à Jean-Gabriel à la technique.
C'était Héloïse
et Roxana avec
Alan, Louane, Andis, Khadija, Onder, Solène, Ayoub, Célia, Lucia, Yousra, Amira, Colline.
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers.